Actu SF, les podcasts.
Bonjour tout le monde, on va commencer cette rencontre autour d'un superbe ouvrage, donc Le Petit Bestiaire Fantastique. Donc désolé, il y a des petits réglages de dernière minute. Désolé. Vous avez donc des casques à disposition parce que donc nous avons un dessinateur qui arrive de Grande-Bretagne directement hier soir, Mr. Hope, qui nous a fait le plaisir de venir, qui est, comment dirais-je, relativement impressionné. Donc il nous a expliqué qu'il souhaitait aussi nous exprimer ses ressentiments et ses sentiments par dessin. Donc on a fait du coup cette petite installation et on espère que d'ici la fin de l'heure, il va pouvoir nous faire des petits sketchs en direct pour nous montrer comment il donne vie à toutes ces belles créatures. Vous avez pu voir donc la petite exposition qu'on a eu le plaisir de monter donc sur le bestiaire fantastique, avec Thomas, Thomas Ilivry, qui est ici, qui depuis fort longtemps s'occupe maintenant du monde geek en France. Et il va nous expliquer un petit peu d'où lui est venue cette envie de faire un très bel ouvrage autour, entre guillemets, des monstres classiques de la pop culture. Mais en même temps, j'ai envie de parler d'un premier tome, parce que vu le sujet, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et que les monstres continueront de l'inspirer. Donc il y a des images qui passent, peut-être que Mr. Hope nous fera des petits commentaires sur les images. Mais Thomas, comment est-ce qu'on passe donc d'une vie consacrée au geek art, entre guillemets, et puis bon, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours, mais comment on passe donc d'une vie consacrée au geek à un bel objet, disons en forme de livre, parce que moi quand je vois ça, je me dis mais les geeks, normalement ça lit pas.
Alors bonjour à tous, c'est complètement faux, hein, vous êtes tous d'accord. Je crois que les geeks au contraire lisent énormément. L'idée qui m'est venue sur ce livre, bah, c'est tout simplement que j'ai eu des enfants. Et je ferai un petit topo sur ce que je fais, sur le geek art en général, mais pour ce livre en particulier. Moi, je suis un grand geek, hein, je suis passé par tous les domaines de l'adolescence, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, lecture, Seigneur des Anneaux. Donc j'ai grandi avec ça, ça ne m'a jamais vraiment quitté. Et quand j'ai eu des enfants, je me suis dit comment les faire rentrer dans cet univers-là. L'objectif, ce n'est pas de leur imposer quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de leur dire, de leur coller un comics dans les mains ou de leur imposer de regarder un tel film ou tel dessin animé en disant tu vas voir, c'est bien. Mais plutôt de leur faire découvrir ces univers-là de manière un peu pédagogique, un peu originale, un peu fun pour qu'ils rentrent un petit peu là-dedans de manière naturelle. Alors moi, mes enfants, ils ont 5 et 2 ans et demi, donc ils sont encore un petit peu jeunes. Mais l'avantage avec ce projet, c'est que les illustrations de Thomas, de Mr. Hope, parlent à la fois aux plus jeunes et aux plus grands, parce que c'est quand même des illustrations assez fun, assez chouettes. Donc on rentre dedans à travers les images, et je me dis que les enfants, grandissant, vont vouloir savoir ce qu'il y a écrit, parce que tous les textes sont assez simples à lire, parce que c'est quand même principalement à destination des plus jeunes. Mais toutes les infos sont précises, c'est-à-dire qu'on va retrouver toutes les infos sur tel monstre, sa mythologie, d'où il vient, comment il a été créé, où est-ce qu'on peut le retrouver au cinéma ou dans la littérature. Donc il y a une vraie démarche pédagogique, mais fun, voilà.
Et comment ça s'est passé? Alors aussi la rencontre donc avec Mr. Hope pour la mise en image de tout cet univers. Et comment est-ce qu'on aborde entre guillemets des monstres classiques sans avoir peur du monument auquel on s'attaque en fait?
Alors la rencontre avec Thomas, elle s'est faite de manière, ça fait un petit moment qu'on se connaît par écran interposé. Juste pour faire un petit background, j'ai créé un site qui s'appelle Geek Art. Parce que, comme je vous disais, moi j'ai grandi avec ces univers-là, avec la pop culture, avec la fantasy, avec les cultures de l'imaginaire. Et j'ai beaucoup travaillé dans la publicité, dans la vie active. Donc j'ai découvert le graphisme, le design, l'illustration de cette manière. Et j'ai voulu faire un pont entre les deux. Parce que les univers geek et pop ont toujours été un petit peu mis à part quoique récemment ça a beaucoup changé bien évidemment, mais il y a une dizaine d'années, personne ne parlait de l'art inspiré par la pop culture. Donc moi j'ai créé un blog dans lequel je mettais en avant tel artiste qui avait fait tel personnage de jeu vidéo, tel personnage de comics à sa sauce, on va dire, et ça a marché plutôt bien. Tellement bien que j'ai été contacté par un éditeur pour faire des anthologies de mon blog, donc des bouquins qui s'appellent Geek Art. Et donc Thomas fait partie des premiers artistes que j'ai contactés pour faire partie de ces anthologies-là. Donc je l'ai connu de cette manière-là. Donc ça, c'est une première chose. Et quand j'ai eu l'idée de ce livre, bien évidemment, la chose la plus importante, ça a été de se dire « Ok, je veux faire ce projet-là, mais... qui va le dessiner ? Je dessine pas très bien. J'aimerais bien, mais je dessine pas très bien. Ça aurait été dommage de faire des bonhommes bâtons. Et en fait, je me suis naturellement tourné vers Thomas parce que il a moi, je suis son travail depuis les, je sais pas, ça fait 6-7 ans. Et en fait, il est venu de manière un peu naturelle dans ma tête pour ce projet-là, parce que j'ai vu son travail évoluer. Et il a un univers graphique qui est à la fois assez drôle, mignon, mais aussi graphiquement super poussé, super intéressant. Voilà, c'était vraiment, ça s'est fait naturellement. Pour moi, c'était lui qui devait illustrer ce livre pour enfants, et sans tomber dans les illustrations trop, on va dire, gamines, on va dire, mais qui font le pont finalement entre le monde adulte et le monde des enfants. C'était une évidence en fait, tout simplement.
Et alors, même si Thomas voulait dessiner, il va le faire en direct devant nous, donc ça va être un grand plaisir. Mais on va quand même un petit peu l'embêter. On va quand même lui poser des questions. À savoir, effectivement, enfin, l'univers donc des illustrations de l'imaginaire, du fantastique, de la science-fiction et autres. Est-ce que comment tu es entre guillemets tombé dedans ou, est-ce que c'était quelque chose qui date de il y a très longtemps, avant bien avant ta rencontre avec le Geek Art, je dirais. Et, tu peux nous parler un petit peu de tout ça?
Yeah, a little bit, I suppose. This is all very strange and new to me. It's watching movies has been something I've always done from a very young age, and drawing and scribbling and things like that. So it's a way of me showing how much I love these characters to draw them in my own style. Yeah. And that's about it, really.
Yeah.
Sorry. It's something I enjoy, and it's nice to see the book and everyone here who's had a chance to see it. Yeah.
Bon, tant qu'il a le micro, on va en profiter. Tu travailles en traditionnel. Tu travailles uniquement sur papier avec les bonnes vieilles encres, ou est-ce que de temps en temps tu te permets, puisque a priori tu travailles avec un geek extrême, donc les nouvelles technologies, ça t'attire pas sur ta création?
I've tried with the Apple Pencil, and I do in fact have it with me. It doesn't feel the same to draw on paper, so I always prefer doing that. I can rub it out easier, and I don't know. I just prefer the overall look of the watercolor and the ink on the paper. It's never really replicated enough or well enough on the iPad or digitally for me to enjoy. I'm not closed off to it. I will evolve with it eventually, I suppose. But for now, the pen and pencil will be enough for me.
Bon, je pense que effectivement, le fait de pouvoir effacer, bon, on va te parler de l'historique dans Photoshop, par exemple, c'est aussi très facile. Mais bon, ça peut être quelque chose d'intéressant à découvrir en tous les cas. Comment est-ce que vous avez choisi, parce que forcément, il y a un choix à faire en fait, hein, parmi toutes ces créatures. Tu parlais de l'amour que tu avais pour ces personnages-là, et c'est vrai que dans n'importe laquelle de tes illustrations, on le sent. On sent que vous vous êtes en fait régalé à faire cet album. On sent que tu t'es régalé à interpréter chaque personnage. Donc, comment s'est fait le choix finalement des créatures? Est-ce que du coup, ça vous a amené à découvrir d'autres créatures que vous n'aviez pas forcément entreaperçues au gré d'un film ou d'un conte? Et ensuite, est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de sketchs, ou est-ce que c'était vraiment le premier jet qui était le bon?
Alors, pour le choix des créatures qui sont dans le livre, c'est plutôt moi qui les ai faits. Ça a été un peu compliqué parce que finalement, c'est pas ça qui manque, hein, les monstres dans la pop culture. J'ai beaucoup parlé de monstres de la mythologie parce que il me semble que c'est un petit peu les bases finalement de la pop culture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il me semble quand même assez important d'en parler, surtout parce que par exemple, dans Harry Potter, on va trouver des centaures, on va trouver le Cerbère, on va trouver les trolls. Et je trouvais ça rigolo et intéressant d'expliquer aux enfants d'où ça vient en réalité. D'où viennent les centaures, pourquoi les trolls sont des trolls, d'où ils viennent, la mythologie scandinave, etc. Et on a aussi beaucoup cherché à parler de monstres un peu fun. Là, j'ai vu passer le Blob, donc ça permet de parler des films de SF des années 50. On a vu passer un Beholder, c'est un monstre qui vient du jeu de rôle Donjons et Dragons, que je trouvais assez rigolo aussi de mettre en avant. En fait, j'ai vraiment cherché à mettre des créatures, on va dire, connues, mais également des trucs un petit peu... Là, par exemple, c'est les gorilles de l'espace de l'excellent film de SF Attack the Block, anglais. Et voilà, ça m'a permis aussi, moi, de me faire plaisir et de placer des petits monstres qui méritaient pour moi d'être un peu sous le feu des projecteurs, dont on ne parle pas assez souvent. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que moi, on aurait pu en faire 200. Et ce sera, j'espère, pour un tome 2. Mais l'objectif, c'était de brasser large, entre la mythologie, le cinéma, la littérature, les dessins animés. Là, on a parlé aussi de la culture, de la pop culture japonaise avec les kaiju et Godzilla. C'était de brasser large et de se faire plaisir, essentiellement.
Et est-ce que, d'après toi, quel est le monstre préféré de Mister Hope? Après, il va peut-être pouvoir nous le dire lui-même. Mais...
Je pense qu'il peut nous le dire lui-même.
I don't know whether I could pick just one. Do I have to pick one now? I guess the gizmo illustration was the my favorite one to draw. Although we did to and fro with the design, because I would draw and then send the sketch to Thomas, who would then either approve or reject. And so that was one that had a few revisions before we got the design right. I also like the Skeksis very much. I like them all. The only one that was particularly horrible was the Thing from The Thing, because there's nothing in that movie that's kid-friendly at all. And I remember this was one that we didn't argue about, because we have a lovely relationship, we work really nicely together. But I asked him to Google, after drawing the head crab with the eyes, I asked him to Google, because he said he didn't really like it very much, and I said, well, Google the movie then and show me an image that I can draw, show me an area of that movie that is suitable. And then he Googled it and said, actually, mate, that one's okay, because all the other ones are horrible. So that's probably the... I like it, but it wasn't the nicest thing to draw.
Bah, c'est vrai qu'il y a certains monstres qui sont plus compliqués que d'autres. Là, on a bien galéré parce que c'est juste horrible ce film. Hein, mais moi, je trouvais ça marrant de le mettre dans un livre pour enfants, justement. Et il a réussi, je trouve, à rendre cette espèce d'alien dégoûtant assez mignon, finalement. Bon, faut pas trop le regarder, mais il a ce truc pour... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup fait d'échanges. En fait, la manière dont on a travaillé, c'est que 90% du temps, il m'envoyait un croquis au crayon et je disais impeccable quoi. Enfin, j'ai une galerie en ligne sur laquelle je vends des tirages limités. Je collabore avec des artistes, donc j'ai un peu un rôle de curateur aussi, de directeur artistique. Mais 90% du temps, c'était nickel. Et c'est vrai qu'il y a eu il y a eu quelques monstres où on a un peu galéré, notamment effectivement celui de The Thing, parce que comment rendre mignon cette saloperie, c'était un peu compliqué. Mais je trouve qu'il s'en est bien sorti. Et le panel est tellement large et il a un style tellement tellement génial que même le golem là, qui est, moi je le trouve mignon. Et ça s'est, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. On a échangé. On a eu un peu de mal avec Gizmo aussi. Parce que le truc, c'est qu'il garde son univers graphique et son style et qu'il se réapproprie ces monstres-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit reconnaissable par tout le monde, mais qu'il garde sa touche. En fait, c'est plus difficile sur ce genre de créatures-là, comme on a vu Max et les Maxi-monstres, parce que c'est des créatures qui sont très présentes dans l'univers collectif, dans l'imaginaire collectif. Donc les réinterpréter sans les trahir, mais en gardant un côté original et décalé, c'était un petit peu difficile. Mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce projet.
Alors l'exposition, donc, c'est de très belles reproductions que tu produis toi-même par le site. Les originaux sont de quel format, en fait ?
The format, they are 10 by 10 inch paintings that have been watercolored, I guess.
Qui correspondent un peu à la reproduction. Ouais.
C'est 10 pouces, je ne sais plus c'est quoi le système métrique. C'est 10 sur 10, ça doit faire 20 sur 20. Ou... C'est à peu près le format original au final.
Et est-ce qu'il y en a que tu n'as finalement pas publié ?
Non, il me semble qu'on les a tous faits. Bon, on a beaucoup forcément travaillé avec Hachette. En fait, au début, on partait un petit peu dans tous les sens pour faire la véritable histoire du truc. Et c'est Hachette qui nous a recadré un peu en disant « Focussons-nous sur les monstres ». Les créatures, parce que on partait un petit peu parfois sur les méchants, sur les créatures humanoïdes, sur les choses comme ça. Et on finalement, après discussion avec Thomas et avec Hachette, on s'est dit, pour ce premier tome, on va vraiment parler essentiellement des monstres dans le sens créatures du terme. Après, peut-être, j'espère qu'on pourra explorer les méchants des comics ou des jeux vidéo ou des choses comme ça. Mais là, on est vraiment resté sur les monstres au sens propre.
Donc là, on peut envisager d'avoir prochainement, disons, des productions de ce même type de format, de ce même type de qualité sur des classiques, je dirais, encore non illustrés.
Oui, absolument.
Et là, vous avez déjà commencé à travailler dessus ou c'est vraiment...
Un peu de patience. Non, pas encore. Mais en fait, on va sortir cette semaine, juste après les Utopiales, sur la boutique en ligne de Geek Art, qui est le Geek Art Store, pour ceux que ça intéresse, des petits formats tirés du livre et notamment de l'exposition. Donc l'objectif, c'est toujours faire du tirage limité, numéroté. Et ça reste dans l'optique du livre. Donc peut-être après que ça évoluera, mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on va faire, qu'on va continuer à faire. J'espère que vous serez nombreux à acheter ce livre pour qu'on puisse en faire un deuxième, c'est surtout ça qui...
Pour l'instant, la réception du livre, c'est quoi ? Vous avez déjà eu des commentaires de petits lecteurs ? Alors, le The Thing, c'était vraiment dégueulasse.
Non. On a eu la chance de faire Comic-Con la semaine dernière à Paris sur le stand de Hachette et on a eu beaucoup de vibrations positives autour de ce projet parce que c'est toujours il vient tout juste de sortir donc c'est un peu compliqué de là c'était intéressant parce qu'on pouvait rencontrer entre guillemets le public et quand on accroche les gens ça parle aux parents et ça parle aux enfants donc c'est assez rigolo parce que ça se veut, encore une fois, ça se veut vraiment un bouquin fun, pédagogique, qu'on puisse partager en famille. C'est vraiment ce qu'on avait envie de faire, quoi. Donc, et pour l'instant, l'accueil est plutôt positif et on est très content.
Ouais, on a presque envie d'en faire des personnages de jeu, en fait, quand on les revoit, quand on les voit réinterprétés de cette manière-là, en fait. On a envie d'en avoir des cartes à jouer ou je ne sais quoi.
Pour, c'est une bonne idée.
Je dis ça pour les produits dérivés, hein, ça peut être. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas, vous levez la main, on va vous passer des micros. Et moi, je vais en profiter pour embêter encore un petit peu Mister Hop, puisque je vais juste passer derrière, switcher les écrans, pour que pendant qu'on discute et qu'à la bonne franquette, on rencontre ces deux charmants jeunes hommes amoureux des monstres, pour que pendant ce temps-là, Mister Hop nous fasse un petit dessin, voire deux, voire plusieurs. Mister Hop est-il d'accord ?
Il est prêt. Il a sorti ses crayons.
I am ready.
Donc,
les questions. en fait, en parlant des monstres, des genres de créatures, en fait, moi, j'ai souvent une imagination assez développée. Et en fait, dans mon imagination, je dis pas monstre, mais plutôt créature, entité, pour dire les créatures en fait fictives. En fait, comme j'ai un peu une imagination développée, bah des fois, je m'inspire des cultures d'autres cultures, comme les mythologies africaines, des fois mésoaméricaines, sud-américaines. Il y a aussi la culture inuite, la culture aborigène. Il y a tellement de cultures en fait dans la planète, en fait, qu'on pourrait avoir plein de créatures en fait de légendes. Et ce que j'adore aussi, c'est des fois inventer des créatures aussi de mes propres mains. Bon, il faut aussi avoir des modes de comportement biologique, alimentation, comment leur mode de vie, en fait, comment ils existent, en fait, l'imagination doit être d'un côté. Attends. En fait, l'imagination doit être d'un côté comme la réalité, en fait. Attends. En fait, pour vous dire, c'est que si l'imagination, c'est comme d'un côté la réalité. Peut-être que ça peut permettre d'unir deux principes qui sont opposés, en fait. Ça doit être une question, en fait, qui doit avoir des réponses assez intéressantes. Il y a aussi un cas de monstre, en fait, qui a un nom un peu particulier. C'est un monstre africain, en fait, que je connais, qui s'appelle le dodo. Faut pas dire dodo oiseau, mais c'est dodo, une espèce de gros monstre avec une grosse bouche, un monstre bouffeur, hein, qui bouffe tout en Afrique. En fait, c'est des genres de monstres, en fait, qui te bouffent toujours plus. Ça a une espèce de truc poilu avec une grosse bouche, mais c'est vraiment gros. Ça vient d'Afrique.
Bah, on a voulu effectivement parler de monstres. Forcément, dans le bouquin, on parle beaucoup de la mythologie, on va dire, européenne. Il y a du dragon, il y a du basilic, il y a du cocatrix, il y a beaucoup de monstres issus de la mythologie gréco-romaine. J'ai quand même parlé un petit peu de créatures de mythologie. On a le Kilin, qui est un dragon chinois. On a le djinn, qui est dans la mythologie et dans les contes de fées arabes. Mais effectivement, c'est pas ça qui manque dans toutes les mythologies du monde entier. Moi, c'est ça aussi que je trouve super intéressant et passionnant, c'est que on pourrait en faire beaucoup, des bouquins comme ça, et ça intéresserait aussi les enfants. Là, l'objectif pour ce premier tome, c'était de parler, on était plus sur un concept pop culture. Donc pop culture, on va se rapprocher un peu plus du film, du cinéma, de la fantasy, forcément. Après, c'est super large, les monstres, ça fait partie de notre société, il y en a de toutes les cultures depuis la nuit des temps. Je fais une conférence lundi matin auprès d'enfants de primaire ici, et ça va être assez rigolo parce que du coup je me suis plongé dans cet univers là pourquoi les monstres existent, quel est leur rôle dans nos sociétés, dans nos cultures et dans nos civilisations, parce qu'ils ont un rôle super important qui a changé au fur et à mesure des siècles. Et ce qui est rigolo aussi, c'est d'imaginer, alors il y a les monstres totalement barré, complètement fou, et il y en a d'autres qu'on peut imaginer avoir comme vous disiez c'est intéressant de se demander comment ils se nourrissent, comment ils mangent, comment leur corps est fait. Et il y a forcément certains monstres qui sont plus ou moins réalistes, d'autres qui sont beaucoup plus on va dire fantomatiques ou plus dans le côté esprit ou mais il y en a tellement. Moi, si on pouvait faire plusieurs tomes dont spécifiquement la mythologie, ce serait super intéressant, parce qu'il y a plein de choses dans la mythologie effectivement africaine, sud-américaine, des monstres que seuls les spécialistes connaissent, qui mériteraient d'avoir un petit coup de projecteur, et ça pourrait être des suites super intéressantes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des observations peut-être? Est-ce qu'il y a des graphistes dans la salle? Il n'y a pas un seul dessinateur dans la salle? Ah, après l'intervention, vous essayerez de convaincre Mister Hope d'essayer une tablette graphique. Ah bon. Alors là, est-ce que vous avez reconnu la créature dont s'est emparé Mister Hope en direct? Alors pour parler un petit peu du geek, en fait, est-ce que Thomas, ton travail depuis tant d'années autour de ce thème, autour de cette famille, est-ce que tu penses que tu as participé, et est-ce que ça se ressent aujourd'hui, à un petit peu désenclaver le côté geek? Parce que est-ce que geek reste toujours un mot péjoratif?
Je pense que les univers geeks se sont désenclavés par eux-mêmes. Si j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, c'est chouette. Mais je pense qu'ils se sont très bien. C'est vrai que c'est toujours un petit peu. Moi, geek, ça a tendance à être une expression qui m'agace un petit peu parce que ça veut tout dire et rien dire à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone, un smartphone, c'est un geek. Pour certains. Il y a pas mal de. Pour moi, en fait, le geek, c'est quelqu'un qui est tout simplement passionné. En fait, je pense que c'est ça la principale définition du geek ou du nerd ou de ce que vous voulez, c'est que c'est quelqu'un qui va être passionné de fantasy, c'est quelqu'un qui va être passionné de science-fiction. Et ce que je trouve passionnant dans les cultures de l'imaginaire, dans la pop culture en général, c'est et qu'on a peut-être un peu tendance à oublier aujourd'hui avec l'avalanche de séries, de films, de comics qui nous tombent dessus. C'est les origines de tout ça. Moi, en tant que fan de fantasy et de science-fiction, ce que j'ai toujours adoré dans ces univers-là, c'est justement d'aller gratter, d'aller savoir un peu d'où ça vient. C'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux, moi, ça m'a permis, quand je l'ai lu assez jeune, j'ai commencé, j'étais en CM1, je crois, ça m'a permis de m'intéresser à la mythologie scandinave, ça m'a permis d'aller m'intéresser à d'autres mythologies, du coup, à m'intéresser à d'autres auteurs, à savoir par qui Tolkien était inspiré. Il y a toujours un côté, il y a toujours quelque chose à découvrir dans la culture geek et dans la pop culture. Et c'est ce que je trouve. Je trouve que c'est le nerf de la guerre de la pop culture et chez nous, les geeks, on va dire. Après, c'est une passion qu'on garde avec nous en grandissant. Moi, forcément, elle a évolué parce que voilà, j'ai deux enfants, je joue beaucoup moins à la console qu'avant, mais je m'intéresse à ça d'une manière différente. Et ce bouquin, pour moi, c'était aussi une manière d'exprimer ce côté vraiment curiosité. C'est-à-dire que... moi, je me suis fait plaisir en allant chercher des infos, et j'espère que les autres et les enfants notamment vont pouvoir le faire en allant s'intéresser à la mythologie. Si tu as aimé les centaures dans Harry Potter, tu vas pouvoir découvrir d'où ils viennent et t'intéresser à la mythologie grecque et peut-être après t'intéresser à la mythologie scandinave, etc. etc., etc. Pour moi, c'est ça la vraie pierre angulaire de la culture geek, quelle qu'elle soit.
Et donc le livre ne s'adresse pas qu'aux geeks, finalement?
Non, bien sûr que non, parce que c'est des monstres que la culture geek s'est appropriée, mais la mythologie, ça appartient à tout le monde.
Et quand tu parles de passion, est-ce qu'on peut connaître un petit peu les références ou les goûts de Mr. Hop, par exemple, en termes de graphisme et dans quoi il a été baigné avant d'arriver ici, aux Utopiales?
Il a été. Je me permets de répondre à sa place parce que je vais pas l'arrêter. Là, il est sur sa lancée, il est en feu. Là. Il est comme moi, en fait. Je pense, on est de la même génération, sans Internet. On a grandi sans Internet, mon Dieu. Et on a commencé avec les bouquins, on a commencé avec les jeux vidéo. En fait, on a eu une adolescence un peu Stranger Things, la série télé. Quoi. On se réunissait. Moi, je me réunissais avec mes potes dans le garage de mes parents, jouer à Donjons et Dragons. Et puis, en jouant à Donjons et Dragons, on a découvert des romans de fantasy, de science-fiction. On a découvert les jeux de cartes. On jouait aux jeux vidéo. Enfin, vraiment le classique de chez classique. Après, ce qui est intéressant quand on grandit. Quand on rentre dans la vie active, quand on a des enfants, c'est de voir comment cette passion-là nous accompagne et de quelle manière on l'a fait évoluer sur un plan personnel. Moi, je sais que je l'ai fait évoluer grâce à mon projet Geek Art, à travers l'art, parce que je collectionne des sérigraphies. J'ai la chance incroyable de pouvoir écrire des bouquins sur le sujet et de créer de toutes pièces ces bouquins avec des illustrateurs fantastiques. Et Thomas a eu à peu près le même parcours que moi. Et moi, ce que j'exprime sur mon site et sur mon blog, lui, il l'exprime avec ses dessins et son travail graphique.
Et alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver des travaux de Thomas sur des publications en France, autres qu'avec toi, peut-être, je ne sais pas.
Non. Il est exclusif.
Il a l'exclusivité
avec moi pour le moment. Peut-être que ça va se développer. C'est tout ce que je lui souhaite. C'est aussi ça. C'est aussi ce à quoi ce genre de projet sert. Et moi, c'est ce que j'aime aussi quand j'écris des anthologies geek art, c'est mettre en avant des artistes, les faire découvrir leur travail. Et on a deux trois autres projets avec Thomas qui sont encore un peu bruts, mais du coup, ça nous a donné envie de continuer à travailler ensemble, en tout cas.
Parce que quand on voit les personnages, on a envie peut-être de les voir bouger, de les voir évoluer dans une histoire, de, je sais pas, une revisitation de, tu parlais de Stranger Things par exemple, l'épisode caché de Stranger Things en bande dessinée faite par Thomas par exemple, des choses comme ça.
Bah, carrément, moi je suis chaud. Il n'y a pas de souci. Bien évidemment, tout ça, la plupart de ces créatures sont des créatures sous licence. Hein, on ne va pas se mentir. On peut pas faire tout ce qu'on veut et n'importe quoi avec certaines créatures. Mais moi, j'ai eu pas mal de retours effectivement sur à quand un dessin animé, à quand des choses comme ça. J'ai envie de dire un pas à la fois. Là, on vient de sortir un bouquin, mais il est fait pour ça, l'ami Thomas. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite. J'espère que ce bouquin va lui permettre d'avoir un petit peu plus, de gagner encore plus de notoriété pour ce genre de projet futur.
Et en termes de production, au niveau des délais de réalisation,
alors, entre le moment où on a lancé les hostilités et le moment où on a tout envoyé à Hachette, il a dû se passer à peu près 3 mois. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit les textes un petit peu plus rapidement que lui a fait les dessins, forcément. Je sais que ça a été très, très intensif pour... oui, moi, je suis une feignasse. Moi, je suis sur Word, et puis voilà. Ça a été très intensif pour Thomas, parce qu'il y a une grosse, grosse, grosse production. Ce que vous voyez sur cette expo n'est vraiment que la partie dévoilée de l'iceberg. Le bouquin, plus d'une centaine de créatures, donc ça a été un gros boulot. Y a eu effectivement en plus ces échanges entre lui et moi sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, comment on pourrait mettre tel personnage en avant, comment on a eu du mal avec le Predator par exemple aussi, qui était un peu compliqué à rendre mignon, un peu comme The Thing. Mais donc pour Thomas, c'est un travail non-stop de 3 mois, ouais, 3, c'est ça, si je dis pas de bêtises, ouais.
Et alors, comment ils sont classés, en fait, dans le livre lui-même, finalement ? Parce que la pagination aussi, on peut se poser des questions.
Alors, on les avait classés... ils sont classés par, entre guillemets, catégories. Il y a les créatures de la... les créatures volantes, il y a les créatures de la forêt, de la nature, il y a les créatures un peu plus cinéma. Et on a fait des pages focus, c'est-à-dire où là, il y a eu encore plus de boulot de la part de Thomas, c'est des doubles pages sur lesquelles on a fait par exemple un focus vampire, on a fait un focus kaiju. Donc les kaiju, c'est les monstres issus du cinéma japonais, on va dire Godzilla-like, c'est-à-dire Godzilla et tous ses amis, on va dire, parce qu'ils sont très nombreux. Et ça permettait aussi de faire découvrir aux enfants et aux plus grands ce pan de la pop culture japonaise qui est super intéressant. Et donc dans ces doubles pages, on parle de familles de monstres. Par exemple, pour les vampires, on va parler du vampire de Dracula, bien évidemment. On va parler aussi du Nosferatu, du film de science-fiction des années 20. On va parler de Buffy contre les vampires. On va parler d'autres vampires un peu plus hardcore qu'on voit dans des BD comme 30 jours de nuit. On fait des focus un peu comme ça sur des familles de monstres, ce qui m'a permis de creuser un peu plus le sujet, d'être un petit peu plus explicatif dans le bouquin sur ces familles de monstres là.
Et sur cette documentation, je dirais un peu plus pédagogique, tu ne travailles pas avec d'autres auteurs finalement. C'est toi qui es l'unique auteur du livre.
Oui,
des livres, alors, de Guigard, quoi, en fait.
Ouais, moi je me sers forcément de ma culture perso sur les livres, sur la mythologie, sur tous les bouquins que j'ai pu lire pour parler de ces monstres. Et puis après, bien entendu, je vais aller gratter un peu plus. J'ai appris plein de choses aussi. Hein. C'est ça qui était super sympa, c'est d'aller chercher certains monstres un peu obscurs, d'où ils venaient exactement, comment expliquer aux plus jeunes, sans aller trop dans les détails non plus, comment ils fonctionnaient, c'était assez intéressant.
On regarde un petit peu la couleur de Mr. Hope.
Je pourrais le regarder des heures, j'adore. Et il ne dépasse pas.
Alors ça, c'est juste
jamais.
Juste pour teaser un petit peu, parce que je crois savoir que vous êtes en dédicace après la rencontre. ou dans l'après-midi.
Oui, bien sûr. Vous êtes les bienvenus. Après, il me semble que c'est à 14h dans la librairie. Thomas pourra signer vos livres et puis moi aussi. Hein, moi, je ferai pas de dessin, mais ça fait toujours plaisir.
Par curiosité, il fait ça sur chaque dédicace ?
Non. Ça, c'est un travail qu'il fait en général pour des commissions privées quand on lui en demande, parce qu'il faut en dédicace, il va faire des dessins très sympas, mais beaucoup plus au trait, juste. Mais c'est toujours chouette. Non, celui-là, il sera pour moi, je pense, à la fin.
Et alors, les prochaines envies, est-ce que...
Ou pas.
Je ne sais pas, les super-héros... tu parlais des licences, c'est peut-être un peu plus compliqué de temps en temps, mais...
Non, pas forcément, parce que quand c'est des anthologies, on parle de plein de monstres et de créatures différentes, finalement, c'est des choses qui restent dans le domaine de l'art et de l'informatif, on va dire. Mais j'ai pas suivi le début de la question, pardon.
Non, parce que moi j'aimerais bien voir un Spider-Man ou un Batman sous le trait de Thomas. Là.
Ah bah oui, mais il en a déjà fait gueule. Beaucoup. Hein. Moi, je vous invite à aller voir sur ses différents comptes Instagram et sur son Tumblr, sur Facebook. Vous tapez Mister Hope et il a fait tout le mois de Inktober. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et c'est un petit défi que se lancent les illustrateurs au mois d'octobre où tous les jours, un visuel original. Donc il a fait ça avec brio. Et je vous invite vraiment à aller découvrir son travail au-delà du livre. C'est vraiment... Il y a de tout. Enfin, oui, il fait tout. Il est fantastique, ce garçon.
Bah, une petite question quand même qui me chafouine depuis le début, c'est pourquoi Mister Hope, en fait, le pseudo ? Désolé, je vais t'interrompre.
I used to be a teacher, and students would, because I was drawing all the time, students would ask what I'd been drawing, and so the kids didn't know my first name, I just called myself Mr. Hope, and so I would sign everything Mr. Hope, and then it just kind of stuck. So Mr. Hope is what it is.
That's your real name?
Yeah, that it is my real name, yeah. On the flight, on the
Tout
way
simplement.
Yesterday,
c'est un bon pseudo.
There was a guy who was asking where I was going and what I was doing, so I showed him all the pictures and things for the book, and he said, but Mr. Hope isn't your real name, is it? So I got my passport out and showed him that it was my real name.
Oui, comme quoi, il ne faut pas aller chercher bien loin les pseudos. Hein? Alors, est-ce que Yoda va nous faire le plaisir d'avoir le temps d'être
Bonjour.
Autonome ?
Ça marche ?
Est-ce que vous avez d'autres questions ?
N'hésitez pas.
Bonjour, j'ai juste une question. Vous avez mentionné le fait tout à l'heure que la plupart des créatures étaient sous licence. Comment ça se passe ? Vous devez négocier les droits pour les utiliser, ce genre de choses ?
Dans la mesure, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où c'est des anthologies, il n'y a pas de souci à ce niveau-là parce que on est plus dans l'hommage et si on avait fait par exemple un focus que les monstres de Marvel par exemple ou les super méchants de Marvel, là pour le coup ça devrait être un livre officiel, on va dire. Donc là après, mais moi c'est pas mon boulot, c'est à ce moment-là c'est Hachette d'aller négocier les droits, ce genre de choses. Mais pour ce bouquin qui parle de manière très généraliste des monstres ou des créatures, et que finalement il y en a très peu qui sont entre guillemets sous licence. Il y en a quelques-unes qui sont issues de livres de films bien connus comme Ghostbusters, comme ce genre de choses. Mais finalement l'avantage aussi avec Thomas, c'est que quand on parle de certains monstres, il va les faire d'une manière on arrive à s'éloigner un petit peu. On s'est amusé avec l'ogre, où il a pris l'ogre, il a utilisé l'ogre du labyrinthe de Pan qui a les yeux dans les mains. Mais au-delà de ça, comme c'est une anthologie, il y a plein de monstres différents, et on brasse très très large et ça reste informatif, on va dire. Il n'y a pas de souci particulier. Voilà.
Et est-ce que ça intéresserait est-ce que ça intéresserait Mister Hope de rencontrer ici, par exemple, de profiter du festival pour rencontrer soit des auteurs, soit des, entre guillemets, de ces créateurs d'univers en fait, auxquels il rend hommage, comme, je sais pas, on pensait à Donjons et Dragons avec Froideval qui est par exemple présent. Ça peut être assez amusant.
Ah bon, on va bien évidemment profiter des invités présents pour se faire plaisir après.
C'est la première fois que Mister Hop vient aux Utopiales.
Oui.
Est-ce que c'est la première fois que Mister Hop vient en France?
Non, parce qu'on l'a fait venir la semaine dernière.
It's my second time in France in a week. Thanks for having me.
Bon, le pauvre à Paris, il n'a pas pu voir grand-chose parce que c'était un peu le marathon à Comic-Con la semaine dernière. Mais là, je vais lui faire un petit tour du propriétaire.
Tu as prévu un tour en France pour lui faire visiter un petit peu?
Voilà, absolument.
Est-ce qu'il y a des dédicaces prévues en librairie? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou uniquement sur des salons spécialisés?
Bon, pour l'instant, c'est uniquement sur des salons spécialisés parce que c'est un peu compliqué de le faire venir à chaque fois. Moi, je vais sûrement le faire, mais bon, c'est moins fun parce que dans un bouquin d'illustration, c'est plus sympa quand l'illustrateur est là pour signer. Mais on va sûrement le faire plus tard. Mais là, on l'a fait. Là, on est content. Là, on a fait entre Comic-Con et les Utopiales, on est gâtés quand même.
Et est-ce que le travail de Mister Hop a été impacté par le Brexit?
Je le laisse répondre.
Not yet.
On n'en parle pas. Il n'aime pas.
Non, c'est pas le bon sujet.
Compliqué. C'est compliqué.
Yoda va virer au rouge.
J'avais une question. C'était par rapport à ici. Par rapport à du futur, est-ce que vous envisageriez de créer vos propres monstres, en fait, de dire, piocher un petit peu droite à gauche et d'imaginer vos propres monstres et de les faire illustrer par votre collègue?
Alors, ça tombe bien que vous posiez cette question parce qu'on est en train de réfléchir justement à un livre pour enfants totalement original, en fait. Donc, on a déjà travaillé là-dessus l'année dernière, lui et moi. Et après, il y a eu le bestiaire qui est arrivé, donc qui nous a pris pas mal de temps. Mais c'est difficile d'écrire une histoire pour les enfants parce que il y en a beaucoup qui existent et il faut qu'on sache à quelle tranche d'âge on va s'adresser, à quelle tranche d'âge on va s'adresser. Et c'est pas évident, mais on y travaille. On a déjà plusieurs idées. On a fait des premiers croquis. C'est quelque chose qu'on aimerait faire. Ouais, effectivement. Avec nos propres bestioles. Ce serait chouette, ouais.
D'autres questions?
Bon, il n'est pas prêt de finir, hein, donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, surtout. Hein.
Bonjour, je suis là. Je voulais juste savoir si justement en faisant votre livre, vous aviez des monstres que vous avez découverts ou des origines qui vous ont étonné ou vous n'aviez absolument aucune idée que ça venait de là. Voilà, des choses qui vous ont surpris.
Bah, pour être tout à fait franc, les monstres dont on parle, je les connais plus ou moins. Après, c'est toujours intéressant de savoir vraiment d'où ils viennent. Moi, la mythologie grecque et gréco-romaine, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit, donc je les connaissais à peu près tous. Après, il y a des... Si, sur les djinns, c'était assez intéressant, que je ne connaissais pas vraiment. Donc, le génie de la lampe d'Aladin ou les djinns qui sont dans le... Qui apparaissent dans le Coran, qui ont des origines plus bibliques que ce que je pensais, en fait. C'est loin d'être juste des simples génies dans une bouteille qui réalisent des souhaits, quoi. C'est assez intéressant de se plonger là-dedans. Et ça m'a donné aussi envie, pour rebondir sur la question de monsieur tout à l'heure, de faire justement un bouquin, peut-être une suite, ce qui serait chouette, sur justement toutes ces créatures des mythologies qu'on ne connaît pas forcément. Ça, ce serait super intéressant. Il y a plein de créatures de la mythologie africaine, de la mythologie sud-américaine, qui ce serait super fun de les mettre en avant, de parler d'eux. Parce que là, on ne va pas se mentir, enfin, les gens connaissent la plupart des créatures qui sont dans ce livre-là. Et de prendre des risques sur un prochain, ça pourrait, sur un nouveau, ce serait vraiment chouette.
Je me permets de revenir sur la question de base, du coup, qui était dans la création de quelque chose d'un petit peu personnel. Est-ce que vous êtes inspiré des trois bouquins, j'ai plus le nom exact, mais qui est une espèce d'encyclopédie de la féerie avec les créatures des rivières, les créatures du monde de féerie, et qui ressemble un petit peu à ça avec des aquarelles et des dessins un petit peu qui reprennent en fait toutes les créatures mythologiques de différentes contrées qu'on peut trouver.
Vous nous accusez de plagiat, c'est ça?
Non.
Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Après, je sais très bien que les bestiaires, enfin de toute façon, le bestiaire, l'objet bestiaire existe depuis le Moyen Âge. Donc il y en a eu, il y en aura. Et après, ça dépend comment on le tourne. Nous, c'était vraiment l'objectif, c'était de le tourner vers les enfants. C'était sur les fées et sur les un peu plutôt de la mythologie celte, non, ou quelque chose. Ça me dit, enfin, en tout cas, ça me dit rien de.
Ouais, alors ils reprennent aussi beaucoup tout ce qui va être les Marie Morgan, les Corrigans, etc. Mais ils tapent aussi sur des créatures plus sur des trucs qui viennent du Japon, des trucs qui viennent d'Afrique. Il y a aussi des trucs très germaniques, justement les Gremlins, enfin l'origine des Gremlins avant la partie film.
Dont on parle évidemment, bien sûr, dans le.
Oui.
Dans le livre, mais non, ça me dit rien. Mais encore une fois, ouais, faire un focus sur des créatures mythologiques qu'on connaît pas, que les gens connaissent pas, ce serait vraiment super.
Et est-ce qu'à ses heures libres, Mister Hop va croquer dans la campagne ou sur des motifs d'après nature?
No, I just sit in front of my TV watching movies and drawing pictures.
Donc c'est en fait Mister Hop le plus geek des deux, finalement.
Quelque part, peut-être, oui. Mais ce qui est fantastique avec ce projet, c'est que ça nous a permis de se rendre compte qu'il y a tout un univers à faire découvrir aux enfants. Moi, j'ai tendance à dire... Je vais me faire un peu d'auto-promo. J'ai la chance de sortir aussi cette semaine chez Hachette un livre sur la littérature de la pop culture. Donc en fait, j'y parle des grands auteurs de science-fiction, de fantasy, de fantastique. J'explique un peu qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils ont écrit ce qu'ils ont écrit et comment ils ont influencé la pop culture en général. Et du coup, avec ma casquette de geek art, je suis allé chercher des illustrations du monde entier pour illustrer tous ces univers-là. Dans l'intro de ce bouquin, je disais un petit peu, la pop culture aujourd'hui est devenue effectivement très mainstream. Il n'y a pas une semaine sans qu'on nous sorte une nouvelle série, un nouveau film, un nouveau jeu, un nouveau truc. Et j'avais envie, alors avec le bouquin littérature de la pop culture, mais également avec celui-ci, de ralentir un peu le rythme, de se poser un peu et d'essayer de faire rappeler aux gens humblement que derrière tous ces super-héros, derrière tous ces films, toutes ces séries, il y a des auteurs, il y a des univers qui ont été créés, il y a des livres à lire. Et voilà, j'espère que humblement, on peut mettre un peu de notre pierre à l'édifice pour que les gens aillent s'intéresser un peu aux origines de tout ça. Que Game of Thrones, c'est une série géniale, mais c'est surtout un bouquin à la base, en fait. Et Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Le Hobbit, c'est pareil. C'est d'aller lire les bouquins, d'aller s'intéresser aux auteurs, d'aller s'intéresser à ce qu'ils ont écrit d'autres. Pour moi, c'est indispensable et c'est ce qui fait vivre la pop culture. Et il ne faut pas l'oublier.
Oui, je reviens à ma première réflexion. C'est quand même une gageure, effectivement, dans le milieu geek, des fois, de les ramener aux origines.
Absolument.
Mais bon, ça, c'est un petit commentaire personnel. Je ne voudrais pas fâcher Mister Hop, mais il va lui rester 2 minutes pour finir le... Yoda.
Bon, on est bien là déjà.
Ça va pouvoir le faire.
On est bien.
Bon, en tous les cas, je tiens à signaler que c'est un vrai plaisir de vous rencontrer en direct tous les deux, parce que le livre est à votre image, énorme et plein d'amour.
Alors je sais pas comment le prendre sur énorme, mais je suis plein d'amour. C'est gentil. Bah, en tout cas, merci de nous avoir reçus, puis merci d'être venu à ce.
N'hésitez pas à aller les embêter en dédicace. Je pense que vous allez passer un très bon moment.
Donc on y est à 14h, je crois, le temps d'aller manger un petit morceau et puis on vous attend là-bas. On va faire des dessins et des blagues. Voilà.
Merci aux deux Thomas.
Merci beaucoup.